Aujourd'hui, nous continuons notre étude de la parole régulière et nous entamons la deuxième épître de Pierre. Après avoir terminé la première épître de Pierre il y a peu de temps, il se trouve que le hasard fait que c'est moi qui suis désigné donc pour le début de cette seconde épître, après avoir été déjà désigné pour le début de la première épître. Et le hasard ou autre chose faisant bien les choses, ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale de cette épître, de ces deux épîtres, afin d'être peut-être plus précis et plus intéressant, et plus dans les rails des versets que nous devons étudier de façon plus précise. Nous avons écouté à travers Emmanuel et Daniel, qui donc est moi-même qui avions la charge de cette première épître, que c'était quelque chose de... Pierre nous donnait des enseignements très précis, des enseignements qui étaient très simples, des enseignements qui nous touchaient au cœur, et c'est peut-être pour cela que les anciens avaient décidé de choisir l'étude de ces deux épîtres-là, parce qu'elles ne vont pas par quatre chemins, et elles vont directement vers des sujets qui nous touchent, qui nous intéressent et qui nous disent vraiment quelque chose dans notre vie de tous les jours. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fait pourquoi Pierre a écrit ces épîtres. Je me souviens quand j'ai fait et puis Yann avait fait aussi un travail sur ça. C'est dans la deuxième épître que l'on découvre la raison profonde pour laquelle Pierre a fait ces écrits-là. Je voudrais commencer par ça. Donc c'est dans la deuxième épître de Pierre, donc le début du chapitre 3, il est écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » C'est vraiment intéressant de voir à la fin, en fait, de la deuxième épître, qu'il donne la raison pour laquelle il s'est lancé dans cette écriture. Et il dit bien, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et la notion d'avertissement me paraît tout à fait importante, parce qu'en fait, ça va être ce qu'on a déjà vu dans la première épître. Ce sont des avertissements. Faites attention, faites ceci. Essayez de. Ne faites pas cela. Et dans la deuxième épître, il va continuer ses avertissements, mais d'une façon plus portée vers le futur que vers le présent. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Pourquoi dit-il cela? Il faut se ramener à ce que Jésus lui avait demandé de faire juste avant son départ, quand il avait en quelque sorte dit son testament personnel devant tous ses apôtres, dans Luc 22, il est écrit au verset 31-32, donc c'est en quelque sorte l'ordre de route, le bulletin de travail, de mission qu'il donne à Pierre. Il dit au verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et ces deux épîtres, c'est vraiment ça, c'est l'affermissement de ses frères, et c'est ce qu'il dit dans le verset précédent que je vous ai lu. Il veut nous affermir en éveillant notre intelligence, notre saine intelligence par des avertissements. Et c'est intéressant qu'il fasse appel à l'intelligence. Ça avait déjà été dit précédemment, mais je le répète, car l'intelligence de notre condition d'homme, notre cerveau, c'est quelque chose qu'il faut aussi utiliser, et ne pas se laisser simplement embarquer par nos émotions, qui sont évidemment participantes entièrement de notre condition humaine, mais notre intelligence a son mot à dire, et à travers Paul, on voit qu'à chaque fois, il essaie de nous ramener à des choses que la science nous a apprises, et qui sont l'honneur de l'homme, en quelque sorte, puisque c'est notre intelligence, qui nous vient de Dieu, certes, mais c'est notre intelligence, notre travail, qui nous a permis d'aller trouver ces vérités-là. Alors, dans ces deux lettres, donc, Pierre obéit à Jésus. Mais pourquoi cela nous touche? Parce qu'il le fait, donc, comme je le disais en préambule, avec ses moyens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent voulu, et c'est vrai, à un moment, on le voit dans les Actes des Apôtres, confronter Paul et Pierre, qui sont pas d'accord sur certaines choses, qui s'affrontent. Mais, en fait, ils s'affrontent pour le bien commun, pour le bien de Dieu. Et c'est très intéressant de voir à la fin du chapitre 3 de cette deuxième épître, où, au verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est intéressant que Pierre reconnaisse à Paul, d'abord le fait de nous avoir donné des écrits fort importants, mais sur des points très difficiles, qui peuvent porter à confusion, et comme si lui-même ne se sentait pas d'attaque pour aborder ces points-là, et qu'en quelque sorte, il s'était partagé la tâche, lui, à travers ces deux lettres, se contentant, entre guillemets, des avertissements précis pour notre vie quotidienne. Et ce préambule mis en place, il est tout à fait intéressant de le remettre dans le contexte dans lequel Pierre imagine notre présence sur Terre. Là encore, c'est des choses qui ont été dites, mais je les rappelle puisque nous entamons la deuxième lettre pour qu'on soit bien d'accord sur le panorama de ce que nous avons déjà étudié. Il est dit dans 1 Pierre 2, 11, cette phrase étonnante, qui a d'ailleurs été reprise dans différents romans, dans un d'Henri Troyat, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Cette expression « étrangers et voyageurs sur la terre », c'est notre condition. Nous sommes dans un train, nous voyageons, c'est un train très particulier parce que nous sommes non seulement voyageurs, puisque nous arrivons sur un temps précis puis nous partons, mais nous sommes surtout étrangers à cette terre. Et ça, c'est vraiment le fond de la pensée de Pierre, et ça doit être notre pensée à nous tous, et je pense que nous ressentons ça régulièrement quand nous sommes confrontés à notre quotidien, au monde qui nous entoure. Nous sommes de cette terre, nous sommes voyageurs de cette terre, mais nous sommes étrangers sur beaucoup de points à ce qui s'y passe et à la manière dont les gens raisonnent et à la manière dont les gens se comportent. Et les épîtres de Pierre, c'est ça. C'est comment allez-vous faire, vous, les étrangers sur cette terre, pour que ce voyage se passe correctement et que vous ne déraillez pas. Et j'aimerais qu'on garde vraiment en tête tout le temps cette notion d'étranger sur la terre, parce que moi, elle m'a beaucoup parlé. Je ne sais plus lequel des prédicateurs en avait fait l'écho, mais c'est quelque chose en travaillant sur la deuxième épître qui me paraît essentiel parce que ça nous donne la clé de tous les avertissements que Pierre nous met devant les yeux. Nous sommes étrangers sur cette terre et en quelque sorte, ces deux lettres, c'est les guides du routard. Vous savez, les guides du routard, ce sont ces manuels que quand on va dans un pays étranger, on nous donne pour nous donner toutes les astuces, les bonnes techniques, les bons lieux, les bons hôtels et aussi les pièges qu'il faut éviter pour ne pas se retrouver en danger. Et les deux épîtres de Pierre, plus j'ai écouté ce qui a été dit et en lisant la suite, plus je me rends compte que c'est vraiment les guides du routard, les routards de Dieu que nous sommes et qui sommes ici pour voyager vers une destination très très précise. Le tome 1, donc c'est la première épître. Comme je l'avais dit précédemment, lorsque vous avez fait cette première étude, ça s'adresse à ceux qui sont loin, à ceux qui sont étrangers. Donc c'était pour les Juifs qui n'étaient pas à Jérusalem, et aussi pour tous les non-Juifs qui se convertissaient. Et il y avait, dans toute cette épître que nous avons étudiée, un mot-clé, un mot-code, qui permettait de passer à travers tout, qui était l'amour. lorsqu'on relit, comme ça a pu être fait, et qu'on étudie donc ce premier épître, c'est l'amour qui est la clé de tout. Pierre nous dit, par l'amour, vous allez vaincre tout. Par l'amour que vous avez reçu, et par l'amour que vous allez donner. C'est ça qui est votre code secret dans ce voyage sur cette terre où vous êtes étranger. Vous avez la clé de l'amour qui ouvre tout. Et à travers les différents thèmes que nous avons abordés, qui sont donc l'espérance vivante qui nous décrit par la résurrection de Jésus-Christ, l'exhortation à la sainteté qu'il nous met devant les yeux, l'explication de Jésus qui est la pierre angulaire de toute notre foi, ensuite le long passage sur la pratique de la vie chrétienne, sur comment se comporter avec les autres, avec sa femme, avec son époux, etc. Et ensuite, évidemment, l'exemple que Jésus-Christ nous donne de son amour par sa souffrance. Et enfin, dans le dernier passage, le fameux justement passage de témoin aux anciens et aux jeunes à qui il donne des avertissements et des conseils pour que le témoin de l'amour puisse passer le mieux du monde. Et je voudrais juste vous relire, encore une fois, ce n'est pas pour faire une ressucée de ce qui a été dit, c'est parce qu'on ne peut pas aborder la deuxième épître sans avoir bien en tête la première épître, comme elle a été fait sur plusieurs semaines, un petit résumé permet d'être sûr des wagons qu'on a déjà accrochés. Je te remercie vraiment, parce que la locomotive, ça m'aide beaucoup. Bien partir avec la locomotive de la deuxième épître. Donc simplement, à travers ces thèmes dont je viens de vous parler, qui sont dans la première épître de Pierre, quelques phrases, quelques versets qui parle de cet amour qui est à la base de tous ces avertissements. Donc au verset 8, premier chapitre, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Un peu plus loin, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Chapitre 2, alors même l'amour est sous-entendu, mais vous allez évidemment l'entendre, au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, sous-entendu par amour. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, par amour. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, par amour. » Un peu plus loin, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Au dernier chapitre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et le tout dernier, l'avant-dernier verset, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Ce premier épître, ce guide du routard 1, ce tome 1, ce n'est que ça. Et tout ce qui a été dit par les différents prédicateurs ramène à ça. Dieu nous aime, il explique pourquoi il nous a aimés, comment il nous a aimés, comment il continue de nous aimer. Et nous avons la charge de cet amour que nous avons reçu pour le transmettre, le faire vivre. Et c'est la meilleure arme pour que les gens reçoivent à leur tour cette foi. Et on avait fait tout un travail sur la foi qui était la suite de l'amour, de la charité, de la prière. Tout revenait à la foi, mais l'amour était la nuée qui enveloppait toutes nos actions, toutes nos pensées. Et une fois qu'on a bien ça en tête, ça nous permet d'aborder la deuxième épître sous un angle un peu différent, car cette seconde épître est beaucoup plus courte. Comme si le travail de Pierre, cette fois-ci, s'exerçait sous une forme d'urgence. Et c'est une urgence qui s'explique, puisque en fait, tous les commentateurs sont d'accord sur ça, et il y a un verset qui nous dit « Pierre est sans doute très près de sa mort, en tout cas il le ressent en tant que tel ». Et il exprime au verset 13 du premier chapitre, au verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans les vérités présentes, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et dans d'autres versions, il est traduit, car je sais que mon départ de cette tente est imminent, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Cette tente, c'est le corps dans lequel il vit. Donc il y a, beaucoup plus que dans la première lettre, une sensation d'urgence, comme si Pierre, sachant, Dieu lui ayant appris qu'il était arrivé au bout de son voyage terrestre, avait l'envie de vraiment donner les derniers mots importants, la dernière pierre à son message. Et pour ça, tout va être beaucoup plus ramassé, va être beaucoup plus précis et en même temps encore plus rempli d'amour que précédemment dans la première lettre. Et ça va être amusant de le voir dans la salutation, où là il s'adressait un peu comme un apôtre à ses disciples, ce qu'il était, comme un professeur à ses étudiants. Et là, dans la deuxième épître, il va se mettre complètement à notre niveau, comme si tout le chemin qu'il avait parcouru lui a fait comprendre que, certes, il avait des responsabilités d'affermir ses frères, mais il était d'autant plus amène de les affermir qu'il se considérait comme étant totalement en phase avec tous les frères et les sœurs dont il partageait l'existence maintenant et aujourd'hui, puisque tout ça est fait pour durer dans le temps. Regardez la salutation de la première lettre de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, etc. Et dans la deuxième épître de Pierre, il y a marqué Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il reprend son premier nom de Simon, qui était son nom de pêcheur, en quelque sorte, que son nom de base, comme si je me remets à ma condition d'homme totalement pris sur cette terre, dans cette boue qui nous enserre, dans cette gangue qui fait qu'on est étranger sur cette terre et mal à l'aise. Il met en plus d'apôtre de la première lettre, mais serviteur et apôtre. Donc il redescend de son piédestal, comme si peut-être il avait senti que la première lettre, il donnait des avertissements du haut de sa responsabilité et du fait qu'il était crédible aux yeux des gens, puisqu'il avait partagé la vie de Jésus. Mais là, les années passant, il se rend compte que tout ce qu'il a vécu, en fait, lui donne en effet certains savoirs, certains devoirs, mais que finalement il est comme nous tous, et qu'il est serviteur, et qu'il est simple Simon. Et c'est intéressant que dans la première épître, la salutation, il dit donc à tous les étrangers dispersés dans le pont de la Galatie, etc., qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il parle à des gens qui sont différents de lui, en quelque sorte, même s'ils deviennent semblables à lui, vous qui avez reçu. Et là, dans cette salutation, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est-à-dire que là, comme il a fait avec Simon et serviteur, il se met totalement dans la peau de « nous sommes tous dans le même train, pour ne pas être dans le même bateau ». Nous sommes ensemble, nous sommes participants de la même espérance, mais aussi de la même souffrance. Nous sommes tous du même voyage et tous étrangers sur cette même terre. Et ceci donne encore plus de proximité avec nous à ce qu'il peut raconter. Car en se mettant à ce point, à notre niveau, à la fin de sa vie, où il pourrait au contraire, avec tout ce qu'il a vu, vécu, avoir la grosse tête en quelque sorte, non. Là, c'est exactement le contraire. Il se rapproche encore plus des ouailles que Jésus lui avait demandé de garder pour donner ses derniers avertissements et ses dernières pensées. Regardez, même quand on va tout à la fin, nous avons sur les... Non, j'en parlerai un peu plus tard, excusez-moi. Là, ça va pas venir au bon moment, ça va vous troubler, parce que s'il y a deux autres idées qui vont se confondre. C'est pas simple d'étudier des textes comme ça, et donc moi j'ai des idées qui sont très claires, qui viennent comme au dernier moment, mais le travail de l'esprit, c'est d'arriver à ce que je vous transmette des choses qui soient aussi claires que celles que je les ressens. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, je vais en effet passer par les dernières salutations. Dans 1 Pierre, la première lettre, il termine « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. » Et prenez la dernière salutation donc de la deuxième épître. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le deuxième épître va mettre le point sur quelque chose qui est fondamental, qui n'était pas présent dans la première épître, la notion de connaissance. La première épître va se terminer sur un mot d'amour, soyez dans l'affection l'un avec les autres. La deuxième épître se termine, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce mot connaissance, il n'apparaît pas dans la première épître. Il apparaît beaucoup dans cette seconde épître. Et c'est ça qui va être intéressant maintenant, quand on va étudier précisément les 11 premiers versets qui sont à ma charge, c'est de se rendre compte que, autant le tome 1 de notre guide du routard avait comme nom de code l'amour, le tome 2, il va avoir comme nom de code la connaissance. Et pour arriver à la connaissance, il faut d'abord avoir l'amour. Mais quel amour? Comment le comprendre? C'est ça que va expliquer le début de cette deuxième lettre. Et ça va être extrêmement intéressant de voir que toutes les considérations pratiques que nous donnait Pierre dans la première épître, il va les préciser dans la seconde épître, mais d'une façon cette fois-ci extrêmement dogmatique. La première épître donnait « faites ceci, faites pas cela, soyez bons avec... » Mais là, il va donner un ordre de marche, il va donner un mode d'emploi très très précis pour que l'amour dont il nous parlait dans cette première épître, on puisse vraiment le mettre en place dans la seconde épître. Alors, cette connaissance, il va la révéler à travers 4 chapitres différents dans cette épître. D'abord, la connaissance des vertus chrétiennes, que nous allons étudier tout à l'heure. La connaissance de la parole prophétique, qui est fondamentale pour lui. La connaissance des faux docteurs, être capable de les repérer. Et enfin, la connaissance de l'avènement du Seigneur. Autant la première épître était une épître du présent, en quelque sorte, de quelqu'un qui est dans son voyage, certes, mais qui a le sentiment d'y être pendant un certain temps et qui donne des clés pour le quotidien. Autant la deuxième épître va être portée vers l'avenir, vers la fin du voyage et vers la découverte au sens réel du terme de notre Seigneur. Dans la première épître, l'amour, jusque dans la souffrance, elle se fait dans l'imitation de Jésus-Christ. Jésus a souffert par amour pour vous, donc quand vous souffrez, soyez heureux, parce que vous êtes à l'imitation de Jésus-Christ, vous souffrez comme lui. Dans cette deuxième épître, l'amour, qui n'est plus un objectif, elle devient un moyen. Et un moyen vers quoi ? Un moyen vers la connaissance parfaite de Dieu. Et c'est ce que va expliquer très bien les tout premiers versets de cette deuxième épître que nous allons lire maintenant. Et vous comprenez pourquoi j'avais besoin de tout ce prologue, qui est déjà toute une partie en elle-même, pour bien comprendre l'étape supérieure que Pierre nous fait franchir dans cette deuxième épître. Alors, on a déjà lu les deux premiers versets par les salutations. J'ai refait le fil de ce qui manquait tout à l'heure et qui a été un moment de doute dont je m'excuse. Dans la première épître au chapitre 1, verset 2, la fin, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et ensuite, il développe toute sa théorie, entre guillemets, sur l'amour. Maintenant, allez à la salutation de la deuxième épître au verset 2, chapitre 1, « que la grâce et la paix vous soient multipliées, exactement la même phrase, et il continue, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'était ça mon petit chaînon qui me manquait, sur lequel j'étais pas très très net. C'est que la première étape, c'est l'amour. La deuxième étape, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, mais comment? Par la connaissance. Et cette connaissance-là ne va pas contre ce qu'il nous a dit sur l'amour dans la première épître. Lisons maintenant donc du verset 3 au verset 11, ce qui était donc à l'étude aujourd'hui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses sont point est aveugle, ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà le mode d'emploi sur le fonctionnement de l'amour, dont il nous avait donné des prémices ou des exemples dans la première épître, et là, il le théorise, et il nous donne la clé de notre guide du routard numéro 2 pour terminer notre voyage au mieux. C'est vraiment contenu dans ces versets-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est parce que le verset 3 et le verset 4 reprennent en fait ce qui avait été dit dans la première épître, je n'y reviendrai pas. Par contre, du verset 5 au verset 7, nous avons là un passage clé, je le relis. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Essayez au fur et à mesure d'imaginer une pyramide sur laquelle on va ajouter des étages. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. On retombe sur nos pieds de l'amour, mais là, il y a beaucoup d'étapes précédemment. Il y a exactement 8 étapes. Cet amour dont il nous parlait dans la première lettre, là, il nous dit, si vous voulez y arriver, vous avez 8 étapes à franchir avant. Ce qu'il ne disait pas dans les lettres précédentes. La première étape, c'est la foi. Deuxième, la vertu, c'est-à-dire vertu, à savoir se comporter correctement, avoir une ligne de conduite claire. La connaissance est la troisième étape. Alors pas la connaissance de Dieu, mais la connaissance des choses qui nous entourent, la connaissance des lois qui régissent un pays, la connaissance des règles de vie d'un être humain. Ensuite, la maîtrise de soi, puis la patience, puis la piété. On va s'arrêter à ces 6-là. Piété, ça veut dire la dévotion religieuse, c'est-à-dire le rapport que l'on a avec Dieu, les prières qu'on a avec lui, ce qu'on a fait tout à l'heure en chantant, etc. C'était de la piété. C'est un rapport avec Dieu. Il est intéressant de voir que ces 6 étapes sont des étapes individuelles, sont des étapes personnelles. On n'est en relation que avec nous-mêmes. La foi ne dépend de personne. Des gens peuvent nous en parler, mais on l'a ou on l'a pas avec Dieu. Ensuite, une fois qu'on a la foi, est-ce qu'on va considérer qu'on va se tenir d'une façon vertueuse ou pas? C'est notre problème à nous. C'est notre souci. Ça ne dépend que de nous. Ensuite, la connaissance. Est-ce que nous allons faire les efforts nécessaires pour ouvrir notre intelligence à ce qui se passe autour de nous, à comprendre le fonctionnement du monde, des choses, des gens, de la science, etc. C'est notre travail. Ensuite, la maîtrise de soi. Encore plus. Est-ce que je me maîtrise, est-ce que je ne maîtrise pas, ça ne dépend que de moi. Des gens peuvent m'agresser. La réponse que je donne ne dépend pas d'eux, elle dépend que de moi. La patience. Même constat. Et enfin, la piété, comme je vous l'ai dit, c'est une relation directe et individuelle, ce que nous raconte toute la Bible, entre Dieu et nous. Donc, nous avons 6 étapes individuelles à franchir, qui sont pas simples. La foi, admettons, et encore, mais ça c'est un don que nous avons reçu, une grâce, la foi. Ensuite, la vertu, pas simple à mettre en place chaque jour. La connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, nous pouvons sur chacune de ces étapes nous dire, là je suis pas très au point, là j'ai un peu failli, etc. C'est-à-dire que les marches de cet escalier que Dieu nous demande de monter, elles ne dépendent que de nous, elles sont tout à fait difficiles et compliquées au quotidien à mettre en place. Et c'est seulement lorsque nous sommes sûrs de ces 6 étapes-là que nous avons franchi les unes après les autres, l'idée de la pyramide dont je vous parlais, que nous arrivons à 2 états où on est en relation avec les autres. L'étape 7, c'est l'amitié fraternelle, et la dernière étape, c'est l'amour. Donc tout ce dont nous parlait Pierre dans la première épître sur l'amour, à juste titre, on pouvait, et on émettait parfois des doutes, je me souviens, en disant, mais c'est très difficile à obtenir, mais par la grâce de Dieu, on peut avoir cet amour pour les gens. Oui, d'accord. Mais là, nous avons un mode d'emploi. Soyez sûrs d'abord de votre foi. Soyons sûrs chacun de notre foi. Ensuite, appliquons-la par une vie vertueuse. Ensuite, faisons l'effort de ne pas rester obtus, mais d'être ouverts, d'aller vers la connaissance de ce que le monde peut nous apporter. Ensuite, ayons la maîtrise de nous-mêmes face à tout ce qui peut arriver. Ayons la patience d'être pas pressé dans un temps que nous croyons trop court, mais qui n'est pas le nôtre, qui peut être beaucoup plus long que prévu. Et enfin, soyons toujours fidèles dans notre piété, dans notre rapport avec Dieu. Et quand nous avons fait ces 6 étapes-là, nous sommes alors mûrs, et que maintenant, pour avoir ce très beau mot, l'amitié fraternelle. Et si l'amitié fraternelle fonctionne, à ce moment-là, nous atteignons le grade suprême qui est l'amour. Alors peut-être que si nous appliquions ce que Pierre nous demande de mettre en place, ces 6 premières étapes de l'escalier, nos problèmes de relations fraternelles, nos problèmes d'amour au sens le plus large, seraient résolus d'une façon beaucoup plus évidente. Et tous ces avertissements que Pierre nous donne seraient plus facilement détectables, en quelque sorte, quand il y a des pièges, parce que nous nous reposons sur une pyramide qui est solide. Et alors vous allez me dire, on va s'arrêter à l'amour. Non, parce que le deuxième épître va plus loin que l'amour. Je dis que dans le premier épître, l'amour était un objectif. Maintenant, l'amour dans le deuxième épître est un moyen. Et il est donné au verset qui suit, « Car si ces choses sont en vous, les 8 étapes de la pyramide, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire que l'amour, à ce moment-là, devient le moyen de connaître parfaitement notre Seigneur. Et évidemment, cela change totalement la vision du premier épître, qu'on maintenant on pourrait relire au regard de ce qui nous est expliqué là. Parce que l'amour à ce point-là, l'amour avec cette construction-là, cette rigueur, rappelez-vous quand il disait « je veux vous affermir dans votre saine intelligence ». La saine intelligence, c'est ça, c'est de prendre conscience de toutes ces étapes que nous devons franchir. Super, je suis chrétien, je suis converti, je suis heureux, d'accord. Mais pour que ça donne du fruit pour moi et pour les autres, j'ai toutes ces étapes à franchir, toutes ces marches à gravir. Et ça prend une vie, c'est notre fameux voyage. Et ça, c'est à travers ces avertissements de Pierre qui peuvent nous paraître moins compliqués, moins construits que ceux de Paul, comme il lui-même le reconnaît. Là, pourtant, il donne une clé dans nos vies au quotidien qui sont essentielles. Et comme je sais que vous réfléchissez tout en m'écoutant, cet escalier vous fait forcément penser à quelque chose qui monte, et quelque chose qui monte dans la Bible, il y en a beaucoup, et entre autres il y a la tour de Babel. Parce que les hommes ont essayé d'aller à la connaissance de Dieu, mais directement, sans passer par toutes ces étapes que Pierre nous explique. Rappelez-vous la tour de Babel, je ne vais pas le relire. Les hommes sont ensemble, ils se disent on parle la même langue, on va essayer ensemble de bâtir une tour qui va nous rapprocher du ciel, donc d'être l'équivalent de Dieu en le connaissant, mais par nos propres forces. C'est pas l'homme qui se rapproche de Dieu pas à pas sur les marches de sa pyramide, en suivant le mode d'emploi qui a été donné, et qui est d'abord un mode d'emploi d'humilité sur nous-mêmes, foi, vertu, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, il n'y a aucun orgueil là-dedans, au contraire. C'est, je peux y arriver par la force de mes petits bras, c'est pouvoir contre pouvoir, c'est homme à la hauteur de Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. Rappelez-vous aussi, si on remonte encore plus au début, l'arbre de la connaissance, le fameux connaissance, de la connaissance de la bien, du bien et du mal. Là, la connaissance, elle était à portée de main. Il n'y a même pas besoin de faire toutes ces étapes-là, puisque l'homme était à ce moment-là totalement bon dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le moindre souci. Par contre, la seule chose que Dieu demandait, ce n'était pas de franchir toutes ces pyramides, toutes ces marches, c'était de l'amour. L'amour par l'obéissance. Ne touchez pas. Vous voyez, je ne vous en prive pas, je vous dis simplement de ne pas le toucher si vous m'aimez. Tout le reste, toutes les autres marches de l'escalier, je les ai montées, gravies pour vous. Il n'y a pas de problème. Et que font Adam et Ève? Eh bien, ils désobéissent. Ils veulent se faire l'égal de Dieu, ou tout au moins connaître Dieu aussi parfaitement que lui-même, par la désobéissance. Les uns, c'est par l'envie de pouvoir, tous ensemble, unis, nous, tous les hommes qui sommes sur cette terre, on va arriver à devenir l'égal de Dieu. Tour de Babel, ça tombe. Ou bien, moi qui suis seul, ou on est deux, on va arriver à devenir l'égal de Dieu simplement en prenant le fruit, en lui désobéissant. Ce sont des étapes, des attitudes qu'on retrouve complètement dans nos vies quotidiennes autour de nous. C'est pour ça que nous sommes étrangers sur cette terre et que Pierre dit qu'on est étrangers sur cette terre. Les hommes passent leur temps à se dire, nous, les hommes, groupés, tous ensemble, on a la capacité d'être l'égal de Dieu, même de supprimer Dieu. Ou bien moi, tout seul, je ne donne personne, je décide de ce qu'est ma vie, j'en fais ce que je veux, et je prends ce que je veux prendre, je ne prends pas ce que je ne veux pas prendre. C'est exactement les deux élévations ratées de l'homme, la tour de Babel ou la main qui se lève, moi je prends. Dieu ne veut pas ça, Dieu ne dit pas ça. Et c'est le grand paradoxe du christianisme, c'est qu'en même temps c'est un mouvement de foule, nous sommes un peuple, mais quand nous lisons la Bible, ce Dieu, Jésus, s'adresse toujours à nous individuellement. Et quand on dit qu'on est sauvé, on n'est pas sauvé collectivement, on est sauvé l'un après l'autre. Et c'est pour ça qu'on est étranger sur cette terre, parce que cette terre n'appartient pas à Dieu, elle ne lui appartient plus. Donc il ne peut pas y avoir de sauvetage collectif. Rappelez-vous Noé, quand on en avait parlé aussi, il va en sauver, d'ailleurs c'est même dit, Pierre en parle, et dans la première épître, et la deuxième épître, des huit qui ont été sauvés à l'époque de Noé. C'est totalement individuel, il aurait très bien pu faire un grand package. Non, parce que dès le moment où cette terre n'appartient plus à Dieu, donc il est lui-même étranger, la seule chance de salut, elle est individuelle. Et la force de l'amour, telle qu'elle est expliquée là, c'est toutes ces individualités qui ont gravi une à une les marches vers leur Seigneur, leur Sauveur. À ce moment-là, elles forment un groupe. À ce moment-là, elles forment une collectivité. Et à ce moment-là, l'amour fraternel a du sens. Mais parce que c'est une collusion d'individualités en rapport avec leur Seigneur. Et c'est pas un groupe, un magma. Quand on dit qu'il est écrit que Dieu connaît chacun d'entre nous, oui, il connaît chacun d'entre nous. Et c'est notre force, et c'est aussi notre faiblesse, parce que ça serait tellement plus simple d'être dans un conglomérat, on serait tous ensemble avec des numéros, avec des lois pour nous aimer, etc. C'est ce que faisait le peuple juif, il y avait des lois générales pour que ça fonctionne. Mais Jésus nous dit, c'est votre boulot individuel. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété. Et quand vous serez au point sur ça, vous pourrez avoir de l'amitié fraternelle. Et à ce moment-là seulement, vous pourrez connaître cet amour que je veux vous donner. Vous pouvez vivre entre vous. Et cet amour, il donne la connaissance de moi. C'est quand même une révélation extraordinaire. Mais pour découvrir ça, il a d'abord fallu toute la première épître. Et X années entre la première et la deuxième, je ne suis pas très au courant de combien d'années, il a fallu, qu'importe, même s'il a fallu que 2 jours. Il est dit dans cette deuxième épître, aux yeux de Dieu, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Mais n'étudier que la première épître sans avoir en tête la deuxième épître, il faut presque commencer par l'étude de la deuxième épître, pour ensuite comprendre mieux la première épître, tout ce qu'elle veut dire. Donc j'espère que quand on aura fini la deuxième épître, on relira une fois tous ensemble la première épître, et on verra que le mot « amour » et tous les avertissements qu'il nous donne sur ça prennent un tout autre sens. Une fois qu'on a compris cette obligation individuelle qui est la nôtre, et toutes ces étapes à franchir. Et une fois qu'on a franchi toutes ces étapes, il est facile alors de voir les autres, ceux qui sont sur cette terre, qui ne se sentent pas étrangers, comment ils se comportent. Mais celui en qui c'est sûr de son point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça concerne autant celui qui n'est pas converti, qui n'a pas remis sa vie à Dieu, que ceux qui l'ont remis, mais qui oublient toutes les étapes nécessaires qui doivent être mises en place pour que ce don que Dieu nous fait ait un sens. Et le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Ça veut dire simplement à franchir toutes ces marches dont nous avons parlé, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est un verbe traduit du grec de... Mais bon, broncher, c'est dans toutes les traductions, c'est ce verbe-là. Alors broncher, ça veut simplement dire, dans le dictionnaire, manifester son désaccord, sa mauvaise humeur par des paroles ou des gestes. Donc vous ne broncherez jamais, ça veut dire une fois que vous êtes arrivé à cet état de la connaissance de Dieu, par l'amour, qui elle-même est passée par la fraternité, la pitié, la patience, la maîtrise de soi, la connaissance, la vertu et la foi, on revient au socle, à ce moment-là, vous n'aurez plus de désaccord avec votre Dieu. Donc plus de désaccord avec vos frères, s'ils en sont au même point que vous. Vous n'aurez plus de mauvaise humeur, ni par des paroles, ni par des gestes. Et quand les salutations se terminent par « que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ », cette paix-là dont il est question, c'est la paix qui fait qu'on n'a plus de ces moments de mauvaise humeur, de désaccord qui s'expriment par des gestes, des paroles qui nous font du mal, qui nous cassent, qui nous font revenir en arrière. C'est ça qui nous détruit. Et c'est ça dont Pierre a la responsabilité de nous transmettre comme message. Et c'est un message finalement très simple. Comme lui l'était, c'est un message de vie quotidienne. Et quand tout ça sera mis en place, verset 11, comme une vision merveilleuse qui sera la vision générale de toute cette deuxième épître, comme le diront mes successeurs, où il va toujours être question de ce qui va arriver, de l'avènement du Seigneur, etc. Le verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Quelle espérance! En 11 versets, Pierre a totalement tenu son ordre de mission que Jésus lui avait donné. Affermis mes brebis, affermis tes frères. Il nous a tout donné. Et avec un amour, une sincérité et une expérience qui vient de Dieu qui est extraordinaire. Donc, j'espère avoir été aussi clair que c'est devenu dans ma tête, parce que je n'imaginais pas que les épîtres de Pierre contenaient autant. Et j'aimerais que quand nous allons écouter la suite des études qui vont être faites sur cette deuxième épître, vous gardiez ça en tête. Cette pyramide qui nous mène, comme l'échelle de Jacob, qui nous mène vers Dieu. C'est une grâce extraordinaire, et pour tous les gens ici, aujourd'hui, qui souffrent, qui sont pas bien, qui sont tellement étrangers sur cette terre qu'ils se sentent rejetés, souffrants, vous avez cette pyramide qui va nous porter vers la connaissance parfaite de Dieu, par l'amour parfait qui nous donne la possibilité de vivre grâce à ce mode d'emploi, à ce guide du routard exceptionnel que nous tenons tous dans nos mains.